Europe 1, il est midi. Bonjour à tous.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Et vous avez la parole, vous le savez, comme tous les jours. Mais tout d'abord, le journal d'Europe Midi, avec à la une aujourd'hui, la SNCF prise d'assaut cet été. Elle ajoute 500 000 places dans ses trains. Est-ce que cela sera suffisant? Maud Descamps répondra à cette question dès le début du journal. Les orages n'ont pas fini de provoquer des dégâts. 30 départements sont en vigilance orange. On rejoindra et on entendra un témoignage recueilli par Jean-Luc Bougeon. Emmanuel Macron est à Bruxelles au lendemain de son allocution, la politique internationale après l'allocution d'hier soir, qui n'a pas vraiment fait bouger les lignes politiques. On va également vous parler dans Europe Midi des bébés coca. C'est affligeant, mais des parents donnent du Coca-Cola à des tout petits dans leur biberon. Résultat, les dents des enfants pourrissent. Les 50 ans de Zinedine Zidane aujourd'hui. Zidane qui y pense peut-être pas tous les matins en se rasant, mais qui y pense. Il pense au poste de sélectionneur de l'équipe de France. Cyril de la Morinerie sera avec nous. Et puis on accueille aujourd'hui deux députés. William Martinet, député NUPES des Yvelines, orateur national de la France Insoumise, qui va arriver d'un instant à l'autre. Et Caroline Colombier. Bonjour. Bonjour Caroline Colombier. Vous êtes députée RN de la Charente.
Absolument.
Et on se retrouve dans un instant.
Europe 1.
Si vous prévoyez de partir en vacances en train et que vous n'avez pas encore acheté vos billets, un bon conseil, ne tardez pas. Le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, prévoit un été record. 8 millions de billets de train vendus pour juillet et août. C'est 10% de plus qu'en 2019, donc avant la pandémie. Maud Descamps avec nous. Bonjour Maud.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Face à ce succès, des places supplémentaires vont même être mises en vente. Hein.
En effet, bonne nouvelle hein, pour tous ceux et celles qui n'avaient pas encore réservé leur place ou qui n'avaient pas de trouver de billets pour partir en vacances. La SNCF va mettre en vente 500 000 places supplémentaires. C'est ce qu'a annoncé ce matin sur France 2 le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou.
On est à bloc, on est à bloc. Donc, alors ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute des rames, on fait des compositions doubles, hein. On met deux rames à la fois. Je vous dis, c'est grâce à ça qu'on va faire tourner 500 000 places supplémentaires. Je veux saluer la mobilisation des cheminots parce qu'eux vont travailler pendant que les Français seront en vacances. Donc on aura des milliers de cheminots mobilisés pour réussir les vacances des Français. Voilà, on est au maximum et je le redis, il y a des places disponibles.
Voilà, il y a des places disponibles et l'été s'annonce exceptionnel pour la SNCF qui va donc battre son record de 2019. Alors il faut dire que la hausse des prix des carburants a sûrement poussé un certain nombre de Français à préférer le train à la voiture. Mais attention, hein, si vous voulez partir un jour de grand départ comme le 14 juillet ou un samedi, cela va rester compliqué puisque ces trains-là sont déjà complets. Il faudra donc décaler votre départ d'un ou deux jours pour trouver des places.
Maud Descamps, merci beaucoup Maud. 31 départements sont actuellement en vigilance orange aux orages du Massif central jusqu'au Grand Est. Les phénomènes violents sont quasiment quotidiens ces dernières semaines dans le pays. Hier, c'est dans la région de Roanne que les intempéries ont fait des dégâts. Les pompiers sont intervenus plus de 400 fois. Sandra Creuset, la maire de la commune du Coteau, a vu tomber des grêlons de la taille d'une boule de pétanque hier. Elle témoigne, écoutez au micro Europe 1 de notre correspondant Jean-Luc Bougeon.
Les dégâts, ils sont considérables. Là, nous sommes dans un gymnase, hein, dans le bâtiment municipal, bâtiment public. Un toit explosé, des gros trous, des tapis gorgés d'eau, enfin... De l'eau de partout, l'électricité HS, enfin bon, des bâtiments dans un état de délabrement spectaculaire. En fait, c'est le chaos. Hein. Pendant quelques temps, vous avez le chaos. Vous avez des vitres brisées, des véhicules explosés, des arbres, des feuilles, des branches arrachées, des habitations. Vous avez des espèces de trous dans les volets à certains endroits. C'est impressionnant. Hein. Aux environs de 17 heures, le coteau s'est noirci, hein, le ciel était noir. Et d'un coup, le vent s'est mis mais à souffler. Et en l'espace de quelques secondes, De la pluie qui s'est transformée donc en orage de grêle hein, avec vent violent. Et alors là, ça a explosé, mais en 30 minutes, ça tapait. Des gros grêlons énormes, hein, à l'instar d'une boule de pétanque. Hein. Très, très impressionnant. Oui, bah, vous voyez, j'ai des costellois qui sont sur leur toit, ils bâchent. Il faut parer à l'urgence hein, si nouveaux orages arrivaient cet après-midi, ce qui est prévu d'ailleurs.
Voilà, météo complète. Hein. Soyez là si vous le pouvez, bien sûr, à la fin de ce journal avec Anissa Haddadi. Emmanuel Macron s'est adressé aux Français hier soir. Le président de la République a parlé pour la première fois depuis la claque infligée à la majorité présidentielle aux législatives. Il a assuré prendre acte des fractures dans le pays tout en rejetant l'idée d'un gouvernement d'union nationale. Ce matin, le chef de l'État s'est envolé pour Bruxelles. Un sommet européen s'y tient jusqu'à demain, avant les sommets du G7 et de l'OTAN dans quelques jours. Arthur Delaborde avec nous. Bonjour Arthur.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Cette séquence internationale, Arthur, n'arrive donc pas au meilleur moment pour Emmanuel Macron.
Effectivement, ce marathon diplomatique peut donner une impression d'absence, voire même de désertion au moment où le président est affaibli sur le plan intérieur. Mais avec cet agenda international, les Français vont devoir patienter un peu avant de connaître les solutions qu'il entend mettre en œuvre pour sortir de la crise politique. Le président l'a promis hier soir dès son retour à Paris. Il commencera, je cite, à bâtir cette méthode et cette configuration nouvelle, mais dans l'immédiat, ici à Bruxelles, c'est essentiellement de l'Ukraine dont il est question. Le pays va se voir accorder le statut de candidat à l'Union européenne, tout comme la Moldavie. Ce dernier sommet de la présidence française a débuté ce matin avec une réunion entre les 27 et les pays des Balkans occidentaux qui est sur le point de se terminer. Emmanuel Macron doit s'exprimer en conférence de presse dans les minutes qui viennent en compagnie de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et du président du Conseil européen, Charles Michel. Les actes et les paroles du chef de l'État devraient être scrutés de près par ses partenaires. Avec cette question principale, a-t-il perdu de la crédibilité à leurs yeux? Sur ces points, l'Élysée se veut en tout cas rassurant et explique qu'aucun État membre ne remet en cause la capacité de leadership de la France.
Arthur Delaborde, merci beaucoup pour toutes ces informations en direct de Bruxelles. En Ukraine, justement, 4 mois de guerre et plus de 6 millions de personnes qui ont quitté le pays. C'est colossal. Mais certains Ukrainiens ont voulu rester le plus possible, malgré les bombardements, malgré l'occupation russe. Malheureusement, l'horreur de la guerre a rattrapé certains qui, après avoir longtemps résisté, ont fini par quitter leur pays. Illustration à Mykolaïev, dans le sud de l'Ukraine, avec notre envoyé spécial, l'envoyé spécial d'Europe 1, Nicolas Tonev.
86 noms, l'appel de ceux qui veulent partir, monter dans les bus. Ils craquent. Pourquoi? Voilà pourquoi.
Devant nos yeux, un immeuble de 5 étages a brûlé.
Carbonisé, tout y est passé.
L'immeuble a...
Une roquette à 200 mètres.
Bien, tiens donc.
C'est arrivé juste à côté.
Les roquettes seront neuves à exploser, toutes les 5 à 10 minutes.
Là, je n'en peux plus, tout simplement. C'est terrible, ça prend les nerfs, je ne veux plus vivre ici alors que c'est chez moi, alors que ma famille, mes parents sont enterrés ici. Tout est horrible.
L'heure est arrivée.
Dans le bus blanc, accès aux personnes avec un handicap et ceux avec des animaux. Pour ceux qui n'ont pas de handicap et pas d'animaux, c'est le deuxième autobus. Pas d'inquiétude, il y a assez de place.
Direction la Moldavie, Chisinau, dans 10 heures. Et plus tard, pour beaucoup, des avions pour s'éloigner encore. Yevgeny accompagne Valentina, sa mère, près de 80 ans.
On n'a plus d'économie, plus de salaire, plus de travail. Et puis cette journée...
Nous avons peur. Tenir dans une telle situation n'est pas possible.
On a patienté, mais...
Le fait est que l'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Tu ne vois pas de perspective, tu ne vois pas d'avenir. Ils ont volé notre futur, la Russie a volé notre vieillesse.
Le bus s'éloigne de Mykolaïev, la tension pèse sur tous. Et surtout sur Sacha, le conducteur.
Voilà, chers passagers. S'il vous plaît, détendez-vous, tout va bien, ne vous inquiétez plus. Il nous reste 3 heures avant la frontière. On essaye de faire le plus vite possible.
C'est la dernière épreuve. 4 heures entre les douanes, avant cette triste garantie de sécurité pour tous, hors de leur patrie. Entre Mykolaïev en Ukraine et la Moldavie, Nicolas Tonev, Europe 1.
Europe 1, Europe Midi, les midi 8. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler des bébés coca. Les bébés coca, c'est dramatique. Des enfants ont les dents qui pourrissent à cause de ce que leurs parents leur mettent dans leur biberon. On va parler également de Parcoursup et de Zidane. Et de Zidane, dont on fête les 50 ans aujourd'hui. Restez bien avec nous. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Je voulais absolument qu'on parle des bébés coca dans Europe Midi pour vous alerter et tenter de freiner le phénomène. Bébé coca, c'est le surnom que l'on donne aux enfants de moins de 6 ans qui ont les dents rongées par les caries. En cause, les boissons sucrées et notamment le Coca-Cola, mais pas que, que certains parents mettent dans les biberons. Yasmina Katou avec nous. Bonjour Yasmina.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Les professionnels de santé alertent sur ce phénomène.
Hein. Oui, parce que des petites dents de lait qui devraient être toutes blanches sont noires, rongées par le sucre à peine sorti des gencives. C'est le syndrome du biberon, explique Christophe Lecard. Il est chirurgien dentiste et porte-parole de l'Union française pour la santé bucco-dentaire.
C'est des enfants qui ont à disposition tout au long de la journée un biberon qui contient un produit sucré. Ça peut être du lait chocolaté ou de manière plus exceptionnelle des sodas. Et malheureusement, ça va entraîner l'apparition de caries très importantes.
Et parfois, les racines des dents même sont atteintes. Il faut alors tout extraire, mais ce n'est pas sans conséquence, alerte le dentiste.
Ces enfants n'auront plus de dents au niveau des dents antérieures et ne retrouveront des dents que vers l'âge de 6 ans, avec donc des difficultés à la fois pour s'alimenter, pour parler, du fait de l'absence des dents au niveau antérieur.
Alors, chez les plus jeunes, il faut au maximum limiter le sucre, mais après la consommation d'un lait sucré, par exemple, il est conseillé aux parents de passer une compresse imbibée d'eau sur les petites gencives du bébé. Dès l'apparition de la première dent, il est impératif d'utiliser une brosse à dents et du dentifrice au fluor.
Yasmina Katou, merci beaucoup Yasmina. Un lycéen sur 10 n'a toujours pas reçu de proposition d'admission dans le supérieur. Si bien qu'à l'heure actuelle, certains étudiants ne savent tout simplement pas ce qu'ils feront à la rentrée prochaine. Eh bien, sachez que dès aujourd'hui, ils peuvent retenter leur chance. Parcoursup ouvre à 14h, donc dans un petit peu moins de 2h, une phase complémentaire qui s'étend jusqu'en septembre prochain. Louise Salé avec nous. Bonjour Louise.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Ça sera l'occasion cet après-midi de formuler 10 vœux supplémentaires. Hein.
Oui, et pour les formuler, les lycéens peuvent s'inspirer d'une liste, celle des formations où il reste de la place. Elle sera publiée cet après-midi sur le site. Jérôme Teillard est chef de projet Parcoursup.
Il y a à peu près 5300 formations qui seront présentes, des formations de BTS, d'IUT, de licence, d'école, de classe préparatoire. Il y a sans doute des formations qui sont plus difficiles selon des territoires à être rendues disponibles. Donc c'est aussi un moment de réflexion. Est-ce que je suis prêt à m'orienter vers une ville auquel je n'avais pas pensé, mais qui présente une opportunité parce que c'est ce qui m'intéresse? Il y a des vraies opportunités aussi à saisir dans cette phase complémentaire.
Et cette liste des formations va s'allonger au fur et à mesure que des places vont se libérer. Mieux vaut formuler aujourd'hui 5 vœux et attendre que des établissements plus appréciés s'y ajoutent. Il y a même des cursus très sélectifs qui deviennent accessibles à la fin de l'été. Alors oui, il faut être patient, mais quitter Parcoursup, attention, c'est déconseillé. À part pour les cursus en art, les établissements ne sont souvent pas reconnus. Les BTS proposés par exemple à l'extérieur de la plateforme présentent un taux de réussite beaucoup plus faible pour décrocher le diplôme. Et si en septembre, toujours rien, eh bien une mission de service civique pendant un an est un élément très valorisé dans le dossier. En attendant, de recommencer Parcoursup l'année prochaine.
Louise Salé, merci beaucoup Louise. Zinedine Zidane fête ses 50 ans aujourd'hui. À cette occasion, la légende du foot français a réservé une interview de 18 pages au quotidien L'Équipe. Il parle de Kylian Mbappé, il parle du Paris Saint-Germain qu'il n'entraînera pas dans l'immédiat. Il parle de Karim Benzema qu'il considère comme son petit frère. Mais aussi Cyril Delamorinerie. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Zidane parle aussi de son envie d'entraîner un jour les Bleus, d'entraîner l'équipe de France.
Et son envie, elle est très claire. Je vais vous lire cette citation lors de cet entretien fleuve dans le journal L'Équipe. Il dit « J'en ai envie, bien sûr, je le serai un jour, sélectionneur, quand ?» Ça ne dépend pas de moi, mais j'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France. C'est ce que dit donc Zidane dans L'Équipe. Alors pour le moment, c'est Didier Deschamps qui est aux commandes. Noël Le Graët, que nous avons rencontré en exclusivité hier avec Jacques Vendroux pour Europe 1, prendra une décision après la Coupe du Monde. Mais en cas de demi-finale, finale ou victoire, le président de la Fédération nous a dit qu'il proposera à Didier Deschamps de poursuivre sa mission. En attendant que la place se libère, peut-être donc pour Zidane, Zizou s'entretient physiquement à Madrid, partie de paddle, nourriture saine, il s'occupe de sa famille, il est grand-père. On apprend aussi que ses trophées sont soigneusement gardés par sa mère à Marseille. J'ai joint ce matin Guy Lacombe, qui fait partie du premier cercle. Il a lancé le phénomène à Cannes. Il se rappelle à l'époque d'un jeune homme pétri de talent.
Je l'ai à 17 ans, avec des gars beaucoup plus vieux que lui. C'était un garçon vraiment très sérieux. Il a posé son dévolu sur le football, parce que je pense qu'il avait beaucoup d'autres atouts, mais il aimait le football par-dessus tout et le sort lui a donné raison.
Et ce qui impressionne le plus Guy Lacombe, c'est le parcours d'entraîneur de Zidane, qu'il appelle Yazid, comme tous ses proches.
je dirais, en tant qu'entraîneur, moi, il m'a scotché, quoi, indéniablement. Trois Champions League, d'entrée, comme dit Laurent Blanc, ça vous pose quelqu'un. Et simplement à lui dire bravo.
À 50 ans, Zidane fourmille de projets, ne ferme pas la porte donc au PSG. Et donc l'équipe de France, c'est son envie première. Le légendaire Ballon d'Or français se voit même un jour président d'un club de football.
Merci Cyril. On sait ce qu'en dit Didier Deschamps ?
Alors Didier Deschamps, qu'il en dit pour l'instant, c'est qu'il ne parle pas de Zidane.
D'accord.
Il est concentré sur son poste et il se décidera. De toute façon, c'est d'un commun accord.
Oui.
Ils parleront ensemble avec Noël Le Graët après la Coupe du Monde. Et ce qu'il nous a dit, c'est qu'il adorait son poste de sélectionneur. Et il nous a quand même emmené en 2018 sur le toit du monde, puisqu'elle a remporté la Coupe du Monde en tant qu'entraîneur et puis en 98 en tant que joueur.
Merci Cyril. La météo à présent, Anissa Haddadi, avec une nouvelle fois de nombreux départements en vigilance orange. Hein.
Oui, nous en sommes à 31 départements maintenant placés en vigilance orange aux orages. Ça concerne les départements entre la Dordogne et les Ardennes, en passant par le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Côte d'Or. Des départements déjà fortement touchés ces derniers jours, donc grande prudence. On attend des vents violents à plus de 90 km/h, de la grêle et des cumuls de pluie importants jusqu'à 50 mm, soit 3 semaines de pluie en à peine une heure. Grande prudence donc sur ces départements. Attention sur le reste du pays, c'est mitigé et ça reste très pluvieux sur le Cotentin et le Finistère. 18 degrés à Cherbourg, 24 pour Nantes, cet après-midi 26 à Dijon, 27 pour Paris, 29 à Strasbourg et Marseille et jusqu'à 32 à Perpignan.
Merci beaucoup Anissa, midi 17. On est bien ensemble dans Europe Midi, 39-21. Vous appelez, vous donnez votre avis. On va parler de l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir. Est-ce que le président de la République vous a convaincu ou pas? Vous allez nous dire tout cela. On est avec Caroline Colombier, députée RN de la Charente, et avec William Martinet qui est arrivé. Bonjour William Martinet.
Bonjour.
Député NUPES des Yvelines, orateur national de la France insoumise. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est midi 20, merci d'être avec nous. A-t-on avancé d'un centimètre depuis hier? Pas certain. Emmanuel Macron a dressé hier soir un tableau de la situation politique sans vraiment faire avancer les choses. Il demande à l'opposition, aux oppositions comme on dit maintenant, de lui faire des propositions. Est-ce qu'il vous a convaincu? On en parle, vous le savez, au 39-21, vous appelez, vous passez à l'antenne. On est avec William Martinet, député NUPES des Yvelines, orateur national et les filles, et avec Caroline Colombier, qui est députée RN de la Charente. Alors, je vais vous poser la même question à tous les deux. Comment vous l'avez trouvé, le président de la République, Caroline Colombier ?
Écoutez, moi, je pense qu'il est complètement à côté de la plaque, si je puis m'exprimer ainsi. Il essaie de faire tomber la responsabilité de ce qui se passe sur l'opposition, en demandant à l'opposition de formuler des propositions. Mais je pense qu'il ne reconnaît pas son échec législatif et il n'a pas écouté ce qu'ont dit les Français aux législatives. Donc, il est dans un déni total. Il ne se rend pas compte que la première opposition maintenant est le Rassemblement national, qu'il y a une autre opposition à son programme et qu'il faut que ce soit lui qui fasse des propositions en intégrant ce que les Français lui ont dit en votant en ne lui donnant pas la majorité.
Il dit « j'ai la majorité ». Certes, pas absolue, mais j'ai la majorité relative.
Oui, enfin,
en ce qui
plus,
est vrai.
On va pas jouer sur les chiffres, mais il parle de 44. Oui, il parle de 30 députés qui lui manqueraient, il en manque 44. Ça, c'est un détail. Mais je veux dire, non, il n'a pas.
Il lui en manquait 44 dimanche.
Ouais.
D'après
enfin,
les informations, il y a eu des négociations.
Oui, après, je ne sais pas exactement. Donc peut-être qu'il y en a eu, mais je veux dire. Bref. Sincèrement, tant qu'il ne voudra pas tenir compte de l'avis du peuple, enfin, des Français, il ira dans le mur.
Oui.
Il faut absolument qu'il s'intéresse à ce que souhaitent les Français et qu'il se rende compte de ce qui s'est passé dimanche.
William Martinet, comment vous l'avez trouvé, Emmanuel Macron, hier soir?
Je crois qu'Emmanuel Macron refuse d'admettre la réalité. Il faut donc lui rappeler. Moi, je suis député d'opposition, avec près de 150 autres députés membres de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Nous sommes la principale force d'opposition à l'Assemblée nationale. Nous avons un programme commun avec 650 mesures, dont le SMIC à 1 500 €, le blocage des prix, la retraite à 60 ans. Nous ne sommes pas là pour rendre service à Emmanuel Macron. Nous ne sommes pas là pour aider Emmanuel Macron à mettre en œuvre un programme qui a été rejeté par les Français à l'occasion de cette élection législative. Je crois que quand on écoute l'allocution du président de la République, immédiatement, dès le début de son allocution, il y a un problème.
Si avec 245 députés, il est rejeté, que dire
Emmanuel
du programme
Macron,
des LFI,
Emmanuel Macron
et vos 72
Emmanuel
députés.
Macron a dit au début de son allocution, j'ai été élu sur un mandat clair. Voilà. Ça, je pense que c'est la première erreur. Emmanuel Macron a été élu parce qu'il avait en face de lui Marine Le Pen, qui a servi d'épouvantail. Mmh. Et c'est l'argument du barrage à l'extrême droite qui a fait que Emmanuel Macron a été élu. Les Français n'adhèrent pas à son projet. Ils n'adhèrent pas au recul de l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Et plus généralement, à son projet qui est le néolibéralisme, de mettre le marché de casser le service public, de casser la protection sociale. Donc ce qui s'est exprimé dans les urnes à l'occasion de ces élections législatives, c'est une profonde contestation de ce projet. Et je vous le dis très clairement, ne comptez pas sur nous, les députés de la NUPES, pour participer à toute action qui consisterait à remettre un couvercle sur les aspirations de nos concitoyens qui se sont exprimés à l'occasion de ces élections législatives et pour aider Emmanuel Macron à appliquer un projet qui, encore une fois, est impopulaire dans le pays.
Caroline Colombier.
Oui, juste un petit mot. Déjà, je voudrais dire que si Emmanuel Macron a été élu, c'est quand même largement grâce à votre groupe.
À Marine Le Pen.
Non, à votre groupe qui a appelé à voter.
Ce rôle d'épouvantail qui permet,
je finis, je vous ai laissé
depuis
parler,
deux élections, à Emmanuel Macron de l'emporter.
Pas du tout. C'est vous qui avez appelé à voter Macron, donc vous avez réussi votre coup. Mais en revanche, c'est vrai que vous êtes de toute façon toujours dans l'obstruction totale sur tout et partout, ce qui n'est pas notre cas. Nous n'allons pas cautionner la politique d'Emmanuel Macron, puisque nous avons tout fait pour ne pas donner les pleins pouvoirs à Macron. Ce que nous voulons, c'est avancer de façon constructive.
Alors, on est en ligne.
On a bien compris, je pense que c'est peut-être un sujet désaccord, on a bien compris que maintenant que le Rassemblement national avait un groupe important à l'Assemblée nationale, s'il y avait possibilité d'obtenir peut-être la présidence de la Commission des Finances, etc., il y avait
vous,
des compromis et des
quoi.
Négociations à faire.
Quoi,
de notre
pas,
côté, pour ce qui est du blocage, moi je n'ai pas de problème à admettre que je veux bloquer le programme d'Emmanuel Macron et que c'est notre rôle d'opposition et que c'est dans l'intérêt du pays de faire ça.
Jean-Pierre est avec nous, vous nous appelez des Vosges, on est en ligne avec vous Jean-Pierre, bonjour. Bonjour.
Oui, bonjour monsieur. Merci de me donner la parole.
Ah ben, je vous en prie, c'est le principe de l'émission. Alors vous savez, tous les jours, vous avez la parole, vous appelez le 3921, vous avez la parole. Vous et tous les auditeurs, évidemment. Vous êtes à la retraite, ancien pompier de Paris. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de l'allocution d'Emmanuel Macron?
Écoutez, j'étais très déçu par l'allocution du président de la République.
Ah bon, pourquoi?
Monsieur Macron, il fait du Macron. C'est-à-dire qu'il endort les gens, il méprise les Français. Et méprise l'opposition. Je ne sais pas si le président Macron se rend compte de la situation inédite de la France. Et le président n'a pas tiré toutes les conséquences de ce scrutin. Dès le départ, les premières minutes, il a menti aux Français. Il me semble qu'au soir du deuxième tour, il lui manquait 44 députés, il me semble.
Oui.
Là, il nous dit qu'il nous manque une trentaine de députés.
Alors ça, c'est parce que depuis, il y a eu des négociations. Mais effectivement, dimanche soir, on peut le tourner dans tous les sens. Il avait 245, voilà. Donc il lui manquait 44. Effectivement, hier, il n'y en avait plus que 30. Entre-temps, il y a eu des négociations. Bon, bref, mais...
J'ai écouté ces phrases avec attention. Il dit que nous devons apprendre à gouverner autrement. Mais c'est à lui d'apprendre à gouverner autrement. C'est à lui, c'est pas à nous.
Vous pensez qu'il aurait dû faire, en clair, un mea culpa. En tout cas, être plus...
Plus humble.
Plus humble, oui. J'allais dire plus réaliste sur la situation du pays, mais plus humble, d'accord.
Voilà, plus humble. Et écoutez les Français, parce que les Français ont donné un signal à M. Macron et à son gouvernement.
Quel signal?
Un signal que les Français ne veulent plus de Macron, ne veulent plus de son projet. D'ailleurs, il n'a pas de projet, à part la retraite et puis quelques bidouillettes de ce qu'il a fait. Voilà. Et les Français veulent du concret. Je ne sais pas s'ils se rendent compte qu'il y a des Français qui souffrent. Il y a la France silencieuse, qui ne dit jamais rien et qui n'est pas écoutée.
Il ne lui a pas parlé à cette France. Vous pensez en faire partie, vous estimez en faire partie de cette France silencieuse qui paye ses impôts.
Moi, monsieur, je ne suis pas à plaindre, monsieur, parce que je mange à ma faim encore, j'ai les moyens d'acheter quoi que ce soit. Mais il y a des Français qui souffrent énormément, monsieur.
Vous le voyez autour de vous ?
Bien sûr, de plus en plus. De plus en plus. Les personnes qui ont du mal à finir, à joindre les deux bouts. Les personnes qui n'arrivent plus à se nourrir, à se soigner, à s'habiller, à se déplacer. Et ça, ils ne l'écoutent pas. On ne l'écoute pas, les Français.
Il
peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Il faut qu'il change de politique.
Il faut qu'il change de politique. Qu'il écoute, alors, selon vous, qu'il écoute plutôt sa droite ou sa gauche?
Il faut mettre... Monsieur, la politique, ce n'est pas fait pour les débutants. La politique, c'est sérieux. Il faut des gens sérieux, qui font des projets, qui font des projets qui sont réalisables. Il ne faut pas donner des chèques à tout va sans en avoir
Le début du premier euro.
Voilà, tout à fait. Mmh. Voilà, il faut donner du pouvoir d'achat aux Français. C'est ce qui manque actuellement.
Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci de nous avoir appelé au 39-21. D'autres témoignages nous attendent. On est avec vous. On est également avec William Martinet, député NUPES des Yvelines, et avec Caroline Colombier, députée RN de la Charente. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est midi et demi. Merci d'être avec nous dans Europe Midi. Le débat continue dans un instant, mais tout de suite, c'est le rappel des titres avec vous, Émilie Dez. Bonjour, Émilie.
Bonjour, Romain. Bonjour à tous. L'exécutif est déjà à bout de souffle. L'analyse du nouveau patron des Républicains après l'allocution d'Emmanuel Macron hier. Allocution suivie par 15,5 millions de téléspectateurs, toutes chaînes confondues. Le chef de l'État a écarté l'idée d'un gouvernement d'union nationale. Il appelle les autres partis à dire jusqu'où ils sont prêts à aller pour coopérer. Deux options sur la table, voter les textes à l'Assemblée au cas par cas ou bâtir une coalition. Emmanuel Macron qui est arrivé à Bruxelles, deux jours de sommet européen, les dirigeants des 27 devraient accorder à l'Ukraine et à la Moldavie le statut de candidat à une entrée dans l'Union européenne. Ce sont désormais 31 départements qui sont en alerte orange aux orages, du sud-ouest au grand est. Après une accalmie, des chutes de grêle localement fortes sont attendues dans le centre-est avec des rafales de vent jusqu'à 90 km. La SNCF va mettre en vente 500 000 places supplémentaires dans les trains cet été. La compagnie veut répondre à une demande record. 8 millions de billets ont été vendus pour juillet et août. C'est 10% de plus qu'en 2019. Ils étaient soupçonnés d'avoir piqué des participants pendant la fête de la musique à Versailles et à Asnières. Les 5 gardés à vue ont été relâchés en l'absence de charges insuffisantes, indique le parquet de Nanterre. Et puis, les 15% d'élèves qui n'ont pas reçu de propositions Parcoursup qu'il se rassure. La plateforme lance tout à l'heure à 14h sa phase complémentaire. Ils pourront formuler au maximum 10 nouveaux vœux.
Merci Émilie Dez, on vous retrouve dans une demi-heure. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Midi. Informez-vous avec Romain Desarbres sur Europe 1.
Il y a un point commun dans tous les messages que j'entends depuis le début de la semaine au 39-21 dans Europe Midi. Toutes les personnes, tous ceux qui appellent disent on veut que le pays avance, on veut que tout le monde travaille dans l'intérêt général du pays et accessoirement des Français. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Olivia Grégoire, la porte-parole du gouvernement, a dit ce matin qu'Emmanuel Macron n'avait pas adressé un ultimatum à l'opposition, comme on a pu le lire ou l'entendre ici ou là. On en parle avec vous au 39-21, on en parle également avec William Martinet, député NUPES des Yvelines, orateur national La France Insoumise, et avec Caroline Colombier, députée RN de la Charente. Vous deux, vous l'avez pris comme un ultimatum, ce qu'a dit le président de la République hier soir, quand il a dit « j'attends de l'opposition qu'elle me fasse des propositions ».
Oui, avec quelque chose de paradoxal, c'est que Emmanuel Macron essaye de mettre sous pression l'opposition, alors que c'est lui qui a été mis sous pression par les Français à l'occasion de l'élection législative. Donc je pense que cette stratégie ne fonctionne pas, et je pense qu'Emmanuel Macron doit se rendre compte d'une chose, le centre de gravité du pouvoir s'est déplacé. Nous sommes maintenant dans une situation où nous avons un exécutif qui est très faible du fait de cette séquence électorale et une légitimité politique qui est renforcée du côté de l'Assemblée nationale. Donc pour ce qui est de trouver la solution, de réfléchir à comment nous pouvons avancer, cela doit se faire et doit partir de l'Assemblée nationale. Ça ne peut pas être la demande du président de la République à l'Assemblée nationale et à ses députés de se mettre au garde à vous. C'est de l'Assemblée nationale que cela doit partir. Et sur le sujet que l'auditeur précédent a évoqué et qui est évidemment le sujet
Jean-Pierre, vous appelez des Vosges, le pouvoir d'achat.
Bon. Exactement, le sujet absolument prioritaire qui est le pouvoir d'achat. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de pouvoir d'achat, on parle même de pauvreté. Parce que le sujet dans notre pays, c'est des gens qui travaillent et qui n'ont pas des niveaux de rémunération suffisants pour pouvoir vivre dignement. Moi, je vous donne un exemple. Vous l'avez dit, je suis député des Yvelines, de la 11e circonscription des Yvelines, qui comporte notamment la ville de Trappes. Plusieurs fois pendant ma campagne électorale, je suis allé à la gare de Trappes pour le premier Transilien, qui est à 4h55 là-bas, discuter avec les travailleurs essentiels, hein, ceux qui sont agents de sécurité, femmes de ménage, etc. S'ils ne se lèvent pas tôt le matin pour aller travailler à Paris, Paris ne fonctionne plus. Ces gens-là, ils sont payés au SMIC. Ils sont payés 1300 euros par mois. Ils n'arrivent pas à vivre avec cette rémunération. Donc je pense que notre responsabilité maintenant, en tant que député, c'est à l'Assemblée nationale de poser ces sujets. Nous, il était dans le programme de la NUPES, mais je ne le dis pas par chauvinisme, mais la question de l'augmentation du SMIC, c'est une question qui doit pouvoir être débattue. Nous proposions une augmentation à 1500 euros net, ce qui me paraît le minimum. J'espère que nous pourrons discuter de cela à l'Assemblée nationale et avec tous les autres groupes d'opposition et que peut-être nous arriverons à trouver une position raisonnable qui fait qu'à la fin, le pouvoir d'achat des gens augmente.
Caroline Colombier, sur les salaires, vous pourriez trouver un terrain d'entente sur les salaires, par exemple ?
Déjà, je voulais dire que ce n'est pas à Macron de faire porter la responsabilité de ce qui s'est passé pendant 5 ans et de ce qui arrive aujourd'hui. C'est-à-dire, les Français n'ont absolument plus confiance en lui et ce n'est pas à lui de nous demander qu'est-ce qu'on doit faire. Moi, je voulais signaler aussi par rapport à ce qu'a dit l'auditeur précédent.
Quand vous dites que les Français ont plus confiance en lui, il y a 245 députés.
Oui, mais ils l'ont quand même sanctionné par rapport à ce qu'il faisait avant. Sincèrement, là, c'est un mode de scrutin qui n'est pas proportionnel.
Est-ce que c'est un bon résultat ? Non, ça, tout le monde est d'accord. En revanche, il y a 245 députés qui le soutiennent. Il a été élu président de la République.
Oui, attendez. La personne qui est intervenue juste avant, moi aussi, j'ai eu des témoignages glaçants de gens qui sont partout dans les campagnes, en Charente, qui n'arrivent pas.
Sur le salaire, là,
je vérifie juste un truc. Ce que je veux dire, c'est que ça fait 2 mois qu'il est élu, il n'a rien fait pour le pouvoir d'achat. Est-ce qu'il avait besoin d'attendre que l'Assemblée soit constituée ?
Ça, effectivement, on pouvait...
Et sur les salaires... Il attendait la nouvelle
Assemblée.
Sincèrement, il pouvait quand même commencer à faire certaines choses. Le problème, c'est que c'est toujours des petits bouts
du
de bois.
Du concret,
chéquiers.
Caroline Colombier, sur les salaires, est-ce que vous pourriez être d'accord avec... proposer la même chose ?
Non, je pense qu'il faut aussi être raisonnable. Nous, on a plutôt proposé qu'il y ait des augmentations plus globales de 10% dans les entreprises. Avec des exonérations d'impôts sur 5 ans pour ces entreprises, que ça soit
plus de l'incitation pour les chefs d'entreprise.
Exactement, voilà, c'est ça. Après, encore une fois, nous sommes des gens constructifs, même si nous n'allons pas donner un blanc-seing à Monsieur Macron. Nous sommes dans l'opposition et nous ne laisserons pas faire n'importe quoi.
On est avec Frédéric, cadre dirigeant à Paris. Bonjour Frédéric.
Bonjour, merci de me donner la parole.
Eh bien, merci à vous. Qu'est-ce que vous avez pensé vous de l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir?
Alors, l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir a été un mouvement sur l'échiquier qui est d'excellente qualité. Il ne faut pas oublier qu'il est conseillé par les meilleurs analystes disponibles sur le marché privé en France. Donc, nous avons un il s'est repositionné comme garant des institutions. Il a acté qu'il a été réélu, donc il est légitime. Ensuite, il a acté que le peuple s'était exprimé et le peuple s'est réellement exprimé. Mettant en avant, pour une grande partie de la population, je pense en particulier à ceux qui souffrent le plus, un rejet de l'autocratie des 5 dernières années. Et donc, ils ont voté pour la NUPES ou pour le RN en fonction de ceux qui avaient le plus de chances de résister par rapport à des députés macronistes. Donc, la population s'est vraiment, pour une fois, exprimée malgré l'absence de proportionnel.
Ouais.
Du coup, qu'est-ce qui lui reste comme choix ? Eh bien, il est bien obligé d'acter immédiatement le choix de la population. Il ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale maintenant parce que la population le prendrait à juste titre extrêmement mal comme un mépris de son expression. Et l'Assemblée qui en ressortirait serait encore plus clivée que l'Assemblée actuelle. Donc là, il dit « Ok, je vais écouter et j'appelle les patrons de groupe à faire preuve de maturité et à réagir en fonction de leur sensibilité, en fonction des textes qui sont présentés, et il proposera certainement ultérieurement, quitte à les coécrire ou à les amender avec eux. Du coup, ça, de deux choses l'une, soit ça lui permettra d'avancer et il ne sera plus bloqué, soit ça lui permettra, si les différents partis majeurs d'opposition, ceux qui ont des groupes qui atteignent une 60aine de députés, se mettent dans une démarche de blocage, dans 5-6 mois, il pourra dire « Regardez, voilà ». Donc, ils ont tous été dans une...
Je leur ai tendu la main, et voilà comment ils réagissent. Oui.
Et là, il pourra dissoudre l'Assemblée, et là, les Français, à ce moment-là, lui redonneront une majorité.
Oui, alors...
Ça n'est pas si sûr.
Vous savez, déjà, il y a eu un président qui a dissous, on connaît la suite, mais effectivement, ça semble, on n'en sait rien, mais en vrai, mais ça semble être le scénario effectivement envisagé par Emmanuel Macron. C'est vrai que c'est piégeux, parce que soit vous votez, je m'adresse aux deux députés que j'ai en face de moi, un à gauche, la NUPES, une à droite, le Rassemblement National, soit vous votez. Et vous travaillez donc avec Emmanuel Macron et ça vous démonétise vis-à-vis de votre électorat. Soit vous votez pas et on dit, mais regardez, c'est bon, ils font rien, ils font pas avancer les choses. Je vous dis, toutes les personnes qui appellent, je prends mes fiches en main, disent toutes qu'il faut que les députés votent dans l'intérêt général du pays
mais
et avancent.
Je crois qu'il ne faut pas non plus, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas un blanc-seing. Nous sommes dans l'opposition. Le Rassemblement national a réussi ce tour de force d'avoir 89 députés. Et très sincèrement, on va se battre pour faire appliquer ce que nous avons proposé. Donc, on regardera à la loupe ce qu'il va proposer, mais il est hors de question qu'on soit le marchepied de M. Macron.
Les députés de gauche de la NUPES qui se sont réunis en début de semaine. Tout le monde est arrivé ensemble. Tiens, il y a Jordan Bardella, ce matin, le président du RN, qui dit qu'il a regardé certains députés de gauche arriver à l'Assemblée nationale débraillés. Il a peur que vous transformiez l'Assemblée
Est-ce
en...
Est-ce que vous trouvez que je suis mal habillé ?
Vous mettez une cravate... Alors, oui, mais là, vous n'êtes pas à l'Assemblée. Vous mettez une cravate, vous, quand vous allez à l'Assemblée nationale ?
Non, pas de cravate.
Bon.
Très sincèrement,
Adrien Quatennens,
si ce sont les seuls arguments qu'a M. Bardella...
Non.
À destination du groupe de la NUPES, je trouve qu'ils sont un peu faibles.
Je ne pense pas que ce soit les seuls, sincèrement.
C'est Adrien Quatennens qui va voir le président de la République, c'est vrai, sans cravate. Bon, c'est la nouvelle mode NUPES, oui.
Oui.
C'est un message politique ou pas?
Ouais, je pense qu'il ne faut pas exagérer l'interprétation de tout ça. Hein. Les choses évoluent. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent. Moi le premier comme député dans cette Assemblée nationale, donc il ne faut pas nous demander de rentrer dans le moule. Ça, il y a une chose qui est certaine, que ce soit sur la façon de s'habiller, dans la façon de vivre les institutions et la façon dont nous allons faire notre travail politique, n'espérez pas de nous que nous rentrions dans le moule de ce qu'était un député à l'Assemblée nationale il y a 10, 20
ou 30
ans.
Comme du respect.
Ça va se faire différemment. Moi je ne pense pas que ce soit à travers la cravate qu'on exprime le respect à destination de l'institution. Donc non, attendez-vous, ça je préviens, ça va remuer. Voilà, on avait déjà 17 députés de la France insoumise dont on a beaucoup dit et tout le monde a reconnu que pendant le quinquennat précédent, ils s'étaient beaucoup fait entendre. Maintenant, vous avez près de 150 députés de la nouvelle Union populaire. Donc oui, les choses vont être différemment.
72 et les filles.
Tout à fait. Oui, et nos camarades d'Europe Écologie Les Verts et du Parti communiste. Donc attendez-vous à ce que ça secoue un petit peu. Et en écho à ce que je disais tout à l'heure, ayons bien cela en tête, le centre de gravité du pouvoir s'est déplacé. L'époque de l'exécutif tout-puissant, de l'Assemblée nationale aux ordres, des députés Playmobil, ça c'est fini. Ça va débattre, ça va remuer, ça va secouer. Et je pense que c'est une bonne chose pour la vitalité démocratique du pays.
12h43, restez bien avec nous dans un instant, vos appels au 39-21. Et puis on reste avec Caroline Colombier, députée RN de la Charente, et avec William Martinet, député NUPES LFI des Yvelines. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Emmanuel Macron n'a pas dit hier soir qu'il allait changer de cap. Il demande juste aux oppositions de faire des propositions, de jouer carte sur table en clair. Quelles sont les urgences du moment? Le pouvoir d'achat, on en parle beaucoup, mais est-ce que c'est uniquement le pouvoir d'achat, l'urgence numéro 1? On en parle avec vous au 39-21 et avec William Martinet, député NUPES LFI des Yvelines. Il faut préciser, hein, NUPES LFI, NUPES PS, NUPES Europe Écologie les Verts. Ou NUPES communiste également. Et on est avec Caroline Colombier, députée RN de la Charente. Quelle est la priorité des priorités, selon vous, Caroline Colombier ?
Alors, moi, la priorité des priorités, c'est bien sûr le pouvoir d'achat. Visiblement, les mesures que propose Emmanuel Macron ne sont que des mesurettes et il faut prendre le problème à la racine. Aujourd'hui, on rencontre des gens partout sur le terrain qui ne bouclent pas leur fin de mois. Donc, nous, ce que nous proposons, pour être très clair, c'est déjà une baisse de la TVA sur les produits d'énergie, c'est-à-dire le gaz, l'électricité, le fuel, également sur l'essence, bien sûr, passer de 20 à 5,5%, de façon pérenne, parce que ce que propose Emmanuel Macron n'est absolument pas pérenne. Et puis après, il y a aussi pour le pouvoir d'achat, par exemple, un panier de 100 produits à zéro, avec aussi une TVA de 0%, parce que les gens ne se nourrissent plus.
Alors,
bien.
Votre programme coûte moins cher que celui de la France Insoumise, mais il coûte excessivement cher également, ce sont 10 milliards d'euros les mesures sur le carburant.
Mais c'est, sincèrement, ce que fait Emmanuel Macron coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Mais encore une fois, ce ne sont pas des mesures pérennes. Comment voulez-vous que les Français s'en sortent ? Et s'il y a eu cette réaction avec des oppositions qui ont été plus nombreuses, qui ont des députés, c'est pour cela. C'est un vrai souci, c'est un souci. Je veux dire, quelqu'un qui n'arrive pas à boucler ses fins de mois, qui ne peut pas acheter à manger pour ses enfants, qui ne peut pas mettre d'essence pour aller travailler. Mais où va-t-on ?
Est-ce qu'il va falloir un moment, parce que les prix augmentent, effectivement. On est autour un peu plus de 5% d'inflation.
Oui.
Ça va continuer. On parle de 7% l'année prochaine. Les taux d'intérêt remontent. On a l'impression que c'est une vue de l'esprit. Ça veut dire très concrètement que quand l'État emprunte de l'argent, ça lui coûte beaucoup plus cher. Ça veut dire que la situation économique va se tendre. Est-ce qu'il va falloir penser à baisser les dépenses publiques ?
Je pense que ce serait une bonne chose, absolument. Oui. Je crois qu'il faut absolument...
Alors dans ce cas-là, madame, il faut
alors
dire
quoi ?
Quand on dit baisser les dépenses publiques, comme d'ailleurs le dit Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, vous allez dans la même direction. Emmanuel Macron, juste avant l'élection présidentielle, a fait son courrier à la Commission européenne, s'engageant à la fin du prochain quinquennat à respecter les 3% maximum de déficit dans les dépenses publiques. Donc ça veut dire un plan d'économie de 80 milliards d'euros. Donc à chaque fois que quelqu'un dit « réduisons les dépenses publiques, respectons les critères d'austérité qui sont imposés par la Commission européenne », derrière il faut aller expliquer où ça, hein, dans quel service public, dans quel poste.
C'est pas fou de respecter les règles.
Bien sûr, mais enfin, ça dépend. Ça dépend lesquels. Cette règle-là, en l'occurrence, celle des 3% de déficit, je pense que c'est une mauvaise règle, que ça impose l'austérité et que c'est cette règle-là qui a eu, entre autres, comme conséquence de détruire nos services publics et de faire qu'on a supprimé des postes d'enseignants, des postes d'infirmières, que dans le quinquennat d'avant, des postes de policiers.
Les règles aujourd'hui et pour les mois qui viennent, ce qui se profile à l'horizon, la situation n'est plus celle de ces dernières années. L'argent facile, entre guillemets, l'argent qui coule à flot avec des taux d'intérêt parfois négatifs, on gagnait de l'argent en s'endettant, c'est terminé.
Ah mais moi c'est terminé l'argent qui coule à flot ?
Donc enfin,
les milliardaires français qui ont multiplié leur fortune par 3 depuis le quinquennat de Macron.
Mais je ne vous parle pas d'argent.
Ça, c'est pas de l'argent. Ben moi, je vous parle de l'argent, où il est et où est-ce qu'il coule à flot. Donc, pour les milliardaires français, depuis 2017, depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, leur fortune a été multipliée par 3.
Vous avez fait une découverte,
Un autre exemple. On parlait tout à l'heure des prix du carburant. Vous savez qu'avec la NUPES, nous proposons le blocage des prix des carburants parce que les distributeurs se font des marges énormes. Total, principal distributeur de carburant en France, l'année dernière, 8 milliards de dividendes versés à ses actionnaires. Donc oui, monsieur, l'argent coule à flot. Le problème, c'est que l'argent coule à flot toujours sur les mêmes, qu'il est de plus en plus concentré et que c'est l'objectif de la politique d'Emmanuel Macron de permettre aux riches de s'enrichir. Mais pourquoi est-ce que la dette, elle grimpe ? C'est parce que Emmanuel Macron fait le choix de baisser les impôts. Notamment les impôts sur les plus riches. Voilà, quand on supprime l'impôt sur la fortune, quand on fait ce qu'on appelle la flat tax, bon, c'est un peu technique, mais tout ça revient à baisser les impôts sur les grandes fortunes et sur les grandes entreprises.
Voilà, sur les dividendes des actions.
Bon. Donc on a une politique qui sert à ça, à baisser l'imposition des riches, à faire qu'ils s'enrichissent de plus en plus. Donc nous, le sujet que nous posons avec la NUPES, et je pense que nous sommes le seul groupe d'opposition à le faire, c'est de dire... Améliorer le pouvoir d'achat des gens, ça passe par mieux répartir les richesses. Il n'y a pas de formule magique où on explique aux gens que leur pouvoir d'achat va augmenter sans dire auprès de quelle fortune on va aller prendre cet argent.
C'est immérité une richesse ?
Je pense qu'être milliardaire, c'est immoral, oui. Il n'y a rien dans la vie qui peut justifier que en quelques secondes, comme c'est le cas de Bernard Arnault, on gagne des centaines de SMIC. Voilà. Il n'y a absolument rien qui peut justifier ça, que c'est le résultat d'un système qui dysfonctionne. Donc il faut absolument, dans notre société, travailler à réduire ces inégalités. D'ailleurs, c'était aussi dans le programme de la France Insoumise. Nous proposons qu'au sein d'une entreprise, il n'y ait pas des écarts de salaire qui soient supérieurs de 1 à 20. Je veux bien que les gens aient des mérites différents, un investissement différent, des formations, des qualifications différentes. Qu'est-ce qui justifie dans la société que quelqu'un gagne plus que 20 fois le salaire minimum dans son entreprise ?
C'est rarement de la fortune personnelle, c'est des fortunes d'entreprise. En réalité, ce sont des valeurs d'entreprise, c'est assez...
Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change que Bernard Arnault soit ses entreprises ?
Ça change que ça crée des emplois. C'est pas des voitures dans un garage.
C'est pas Bernard Arnault qui crée des emplois. C'est les gens qui travaillent dans son entreprise. C'est eux qui produisent les richesses. Et Bernard Arnault,
surtout,
il profite du travail de ces gens-là pour s'enrichir et en quelques secondes gagner ce que les smicards gagnent en des années.
C'est une vision et ensuite de nombreux emplois. Michael, entrepreneur, justement, tiens, dans l'Essonne, qu'est-ce que vous en pensez de cette discussion ? Vous qui êtes entrepreneur. Bonjour Michel.
Bah, ce que j'en pense, c'est que la LFI sont toujours dans la démagogie. Évidemment, ils trouvent que c'est indécent de gagner des grandes sommes. Certes, mais s'il y avait pas si on mettait les taxes comme ils veulent les mettre, les grands entrepreneurs, ils partiraient de France tout simplement. Ils délocaliseraient leurs entreprises et après ça serait la chute.
Vous avez créé une entreprise, vous êtes entrepreneur.
Je suis entrepreneur, bon, je ne suis pas milliardaire, hein, pas encore.
Je vous le souhaite, si vous le voulez, si c'est votre
choix. Mais du coup, monsieur, si vous êtes entrepreneur et pas milliardaire, ne vous sentez pas obligé de défendre les milliardaires. Défendez ce que vous faites. Alors, je ne connais pas votre situation, je ne sais pas quelle entreprise vous avez, et sans doute c'est de très belles choses que vous faites dans notre pays, mais vous ne vous sentez pas obligé, parce que entrepreneur, de défendre des gens qui n'ont absolument rien à voir avec eux, qui ont hérité de leur fortune et qui sont milliardaires de père en fils.
Qu'est-ce que vous en dites, vous?
Bah, moi, je pense. Alors, j'ai toujours pensé qu'une rémunération, on peut pas tous avoir la même rémunération. Je pense qu'il faut que ça dépende aussi de ce que vous faites, de vos compétences. Je veux dire, on peut pas mettre tout le monde au même niveau. Après, c'est vrai que c'est
1 à 20, ça vous paraît pas suffisant
et on retrouve Mickaël.
Moi, je pense que, en effet, c'est choquant quand on voit des personnes qui partent à la retraite avec des retraites chapeaux monstrueuses, etc. Mais c'est pas. Moi aussi, je pense comme ce monsieur, comme cet entrepreneur, que c'est de la démagogie, que vous êtes la nupe dans la démagogie totale, en proposant toujours plus, en disant toujours... C'est vrai que Macron a aidé les riches, c'est vrai, mais on peut quand même, je veux dire, tous ces gens-là, comme ce monsieur entrepreneur, je veux dire, c'est des gens sérieux, c'est des gens qui créent de l'emploi, contrairement à ce que vous dites.
Moi,
On va retrouver Mickaël. Mickaël, comment vous l'avez trouvé, Emmanuel Macron, hier soir, en quelques mots, s'il vous plaît, parce que arrive la fin de l'émission, malheureusement.
Franchement, je l'ai trouvé dans son rôle.
Bon.
Dans son rôle. Après, lui, il espère que d'autres partis vont le rejoindre, mais je pense que ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Mais c'est ce que je souhaite, en tout cas. En tout cas, pour les partis républicains, hein, je parle des républicains du PS, qui est dans la NUPS, mais qui, à mon avis, ça ne va pas durer longtemps, toute cette histoire, qui le rejoignent pour faire avancer le pays. Parce que, de toutes les façons, LFI sont dans le blocage constamment, ils ne se confortent que quand c'est le chaos, donc ça, il faudra faire un trait dessus, et RN, je vois mal comment ils vont pouvoir, il va pouvoir gouverner avec RN, vu qu'ils ont des positions très, très clivantes, et ça ne va pas être possible.
Merci beaucoup Mickaël, de nous avoir appelé depuis l'Essonne dans le 91. Mickaël, entrepreneur. 12h55, merci à tous les deux. William Martinet,
merci à vous.
Député merci. NUPES, et Caroline Colombier, députée RN. Voilà, on vous a entendu, on a vu ce à quoi va ressembler la future Assemblée. Première session à partir du 28 juin. Bonjour Elisabeth Assayag.
Bonjour Romain.
On vous retrouve dans un instant pour La France Bouge.
Et nous, on vous retrouve demain pour Europe Midi.
À demain.
Europe Midi. Romain Desarbres.